Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la sainte sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce mardi 21 février 2023. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran ripostera aux nouvelles sanctions de l'Union européenne. Le Hamas salue l'expulsion d'Israël du sommet africain. Et le duo Afrique-Russie resserre les rangs face à l'Occident. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Téhéran promet de prendre des contre-mesures en réaction aux nouvelles sanctions de l'Union européenne visant un nombre de responsables et d'entités iraniens. L'annonce est intervenue lundi soir, 20 février, quelques heures après que le Conseil de l'Union européenne a imposé des mesures restrictives à 32 individus et deux entités iraniennes dans le cadre d'une cinquième série de sanctions pour ce que le bloc a appelé la répression des récentes émeutes par Téhéran. La République islamique d'Iran annonce bientôt une liste des sanctions réciproques en réponse aux récentes interdictions de l'Union européenne, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani. Selon le communiqué de presse de l'Union européenne, le ministre iranien de la Culture et de l'Orientation islamique, Mohammad Mehdi Esmaili, le ministre de l'Éducation, Youssef Nouri, le commandant adjoint et le porte-parole du corps des gardiens de la révolution islamique, Ali Fadavi et Ramazan Sharif, un certain nombre de députés, des membres de la police et de l'appareil judiciaire dans diverses villes du pays, ainsi que des gardiens de prison, figurent parmi les personnes blacklistées par le Conseil de l'Union européenne. Les mesures restrictives de l'Union européenne s'appliquent désormais à un total de 196 personnes et 33 entités, consistant à un gel des avoirs, une interdiction de voyager en Europe et de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition des personnes figurant sur la liste. Le bloc des 27 pays européens a imposé des sanctions contre l'Iran pour ce qu'il appelle l'approche du pays face aux émeutes soutenues par l'étranger, qui ont éclaté en septembre dernier après la mort tragique d'une jeune iranienne appelée Mahsa Amini. Elle s'est évanouie dans un poste de police à Téhéran et a été déclarée morte 3 jours plus tard à l'hôpital. Un rapport officiel de l'Organisation iranienne de médecine légale a conclu que la mort d'Amini avait été causée par une maladie plutôt que par des coups présumés à la tête ou à d'autres organes vitaux du corps. Après sa mort, les émeutiers se sont déchaînés attaquant brutalement les agents de sécurité et causant des dégâts massifs aux biens publics. Des dizaines de personnes et de membres du personnel de sécurité ont été tués dans les émeutes. Lors d'un appel téléphonique dimanche 19 février, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré à Joseph Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, que l'Union européenne s'en tenait à la politique inefficace de sanctions de l'ancien président américain Donald Trump contre Téhéran. le comportement de l'Union européenne ces derniers mois est la continuation de la politique inefficace de l'ancien président américain qui prouve de plus en plus la poursuite de normes ambivalentes et irréalistes de l'Occident, outre l'instrumentalisation des concepts des droits de l'homme, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. La déclaration finale du 36e sommet africain de l'Union africaine n'est pas passée inaperçue de la résistance palestinienne. Le mouvement de résistance islamique de la Palestine, Hamas, a salué la déclaration de clôture de l'Union africaine. Le Hamas a demandé aux Nations Unies et à la communauté internationale de ne pas passer à côté des crimes du régime occupant israélien et des cas multiples d'agressions contre les territoires palestiniens et de profanation des valeurs sacrées des Palestiniens, sans oublier la violation constante par Israël de leurs droits les plus élémentaires. Le Hamas appelle également la communauté internationale et l'ONU à soutenir la lutte des Palestiniens jusqu'à ce qu'ils parviennent à restaurer leurs droits légitimes, consistant entre autres à créer un État palestinien indépendant avec la noble Rots pour capitale. Suite à l'expulsion humiliante de la délégation israélienne du sommet de l'Union africaine qui a provoqué sans surprise la colère des responsables de Tel Aviv, le porte-parole du Hamas, Jihad Taha, a tenu à saluer tous les efforts qui ont empêché la présence de la délégation israélienne à cet événement. Ce qui, selon le porte-parole du Hamas, correspond parfaitement aux valeurs de principe de l'Union africaine. Le Congrès national africain, parti au pouvoir en Afrique du Sud, a salué l'expulsion de la délégation israélienne du sommet de l'Union africaine, qualifiant Israël d'institution raciste. Selon la chaîne de télévision libanaise Al-Mayadin, le Congrès national africain a annoncé que l'expulsion de la haute délégation diplomatique israélienne de la réunion de l'Union africaine à Addis Abeba était une mesure à saluer. Une délégation israélienne conduite par Sharon Barley, directrice adjointe du département Afrique au sein du ministère israélien des Affaires étrangères, a tenté de participer samedi 18 février à la séance d'ouverture du sommet de l'Union africaine, mais l'opposition des pays africains l'en a empêchée et la délégation israélienne a fini par quitter la salle de conférence avec l'intervention des agents de sécurité. Le régime sioniste a immédiatement formulé des accusations non fondées contre l'Iran pour avoir planifié ce scénario. Ces allégations ont fait réagir Vincent Magwenya, porte-parole du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Lui, qui avait participé en personne au sommet, a affirmé qu'Israël devrait fournir des preuves en appui à ces allégations. Sur ce fond, le chef de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, s'est exprimé dimanche, soit un jour après que la délégation israélienne a été expulsée de la cérémonie d'ouverture du sommet à Addis Abeba. L'Union africaine a déclaré que le statut d'observateur d'Israël au sein de l'organisation avait été suspendu et que le régime israélien n'avait donc pas été convié au sommet. Moussa Faki Mahamat avait accordé son statut d'observateur à Israël en 2021. L'annonce avait suscité un tollé dans tout le bloc panafricain et des protestations notamment de la part de l'Algérie et de l'Afrique du Sud. Ces événements ont été suivis par l'annonce d'une délégation de clôture du sommet africain qui condamne l'assassinat de la correspondante d'Al Jazeera, la journaliste palestinienne Shirin Abu Arla, et affirme son soutien à une enquête internationale indépendante pour découvrir les circonstances de son assassinat. La déclaration indique également qu'elle soutient la direction de l'État de Palestine de renouveler sa demande d'adhésion à part entière à l'Organisation des Nations Unies et appelle également tous les pays à accepter cette adhésion, soulignant le plein soutien au peuple palestinien dans sa résistance face à l'occupation israélienne. Les autorités africaines, dont les chefs de la diplomatie rwandaise et tchadienne, réitèrent la tendance du continent noir à continuer la coopération avec la Russie malgré la menace des sanctions occidentales. Les dirigeants africains déclarent que malgré l'opposition de l'Occident, l'Afrique est déterminée à poursuivre sa coopération avec la Russie, puisqu'ils n'ont jamais vu la Russie comme un ennemi ou comme l'un des anciens colonisateurs de leur nation. Les colonisateurs occidentaux ont beau tenter de dicter à l'Afrique avec qui elle peut entretenir des liens. Le continent ne semble point céder, juge le ministre ougandais des Affaires étrangères. Kampala est déterminé à préserver ses liens avec Moscou malgré la menace de sanctions occidentales. en réponse aux récentes déclarations interventionnistes de certains pays sur le partenariat Afrique-Russie sur divers plans, le ministre ougandais des Affaires étrangères a déclaré que l'Afrique comprend très bien qui est son ami et qui est son ennemi, et que l'Occident n'a pas à y intervenir. De nombreux pays africains, dont l'Ouganda, le Tchad et le Mali, sont arrivés à la conclusion que la Russie peut être une alternative appropriée aux pays occidentaux dans le continent noir. Ceci qui ont exploité l'Afrique depuis de nombreuses années. Et cela malgré les retombées des sanctions anti-russes de l'Occident qui a déjà touché la vie des citoyens africains. C'est ce qu'a également confirmé le chef de la diplomatie du Tchad, qui estime que Moscou pourrait par ailleurs être un soutien fiable et influent dans la lutte contre le terrorisme. Le Tchad est bien décidé à continuer sa coopération avec la Russie, particulièrement dans le domaine militaro-technique, confie-t-il. Le président américain Joe Biden a effectué lundi 20 février une visite inopinée à Kiev où il a promis une aide militaire d'une valeur de 500 millions de dollars près d'un an après le début de la guerre russo-ukrainienne. Le président américain doit également se rendre en Pologne. De loin, le plus grand fournisseur d'assistance militaire à l'Ukraine depuis le début de l'opération militaire spéciale de la Russie en février dernier, les États-Unis ont annoncé un plan d'aide supplémentaire de 500 millions de dollars qui comprendrait davantage d'armes et d'équipements militaires, y compris des obusiers et des missiles anti-char Javelin. Biden s'est voulu rassurant sur le fait que Washington resterait aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudrait. Malgré tous les désaccords que nous avons au sein de notre Congrès sur certaines questions, il existe une entente significative en faveur de l'appui à l'Ukraine, a dit Biden. Pour sa part, Zelensky a déclaré à Biden que sa visite à Kiev était un signe d'appui extrêmement important pour tous les Ukrainiens. La vice-présidente américaine Kamala Harris s'exprimant samedi lors de la conférence annuelle de Munich sur la sécurité, a accusé la Russie d'avoir commis ce qu'elle a qualifié de crime contre l'humanité au cours de son opération militaire de près d'un an contre l'Ukraine. Harris a ajouté que la Russie devrait être tenue responsable de ses actes. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Dans quelques instants, je vous présenterai le commentaire politique. La mise en œuvre des accords de coopération Iran-Chine. Les récents accords conclus entre l'Iran et la Chine deviendront opérationnels d'ici 2 mois et leurs effets seront bientôt perceptibles, a déclaré lundi 20 février le chef de l'Organisation iranienne pour le développement du commerce, Alireza Peymanpak. Concernant la récente visite du président iranien Ebrahim Raisi à Pékin, Alireza Peymanpak a indiqué que les préparatifs de ce déplacement, avec pour objectif le développement des relations commerciales et économiques avec la Chine, avaient été faits plusieurs mois auparavant avant de poursuivre. La Chine étant l'une des plus grandes économies du monde, le développement des relations commerciales et économiques sino-iraniennes faisait partie des priorités du gouvernement iranien. La visite du président Raisi a marqué une série d'accords, de mémorandums et de contrats signés entre les deux parties afin de développer des relations dans plusieurs domaines, dont le tourisme, les mines, les chemins de fer, le commerce, les machineries, les équipements industriels et miniers. Le responsable iranien a ensuite déclaré que la Chine comptait parmi les plus grands utilisateurs de matières minérales au monde, ajoutant que des échanges sur la participation des entreprises chinoises au développement des industries minières en Iran avaient été menés. Pour ce qui est de la production conjointe sino-iranienne, pour réduire le coût du transport, le chef de l'Organisation iranienne de développement du commerce a déclaré que l'un des principaux enjeux du secteur commercial après la pandémie de COVID-19 était la hausse du prix du transport, ce qui fait que, sur les deux dernières années, le transfert d'un conteneur de la Chine vers le Moyen-Orient, qui revenait à 1 000 $, a été multiplié aujourd'hui par 7 ou 8. Égard au rapprochement politique et social et aux accords commerciaux entre l'Iran et les pays de la région, la décision a été prise de tirer profit de ces possibilités dans le cadre de la production conjointe d'entreprises iraniennes et chinoises en Iran en vue de l'exportation vers les pays de la région, a-t-il dit, indiquant qu'il s'agira d'un partenariat gagnant-gagnant pour les deux pays. Faisant référence aux accords industriels d'une valeur de 3,5 milliards de dollars entre l'Iran et la Chine, Payman Pak a déclaré que l'un de ces accords était de coopérer avec les marques automobiles chinoises qui réalisent des exportations de qualité afin d'améliorer la fiabilité des moteurs et des équipements automobiles. L'Iran et la Chine, a-t-il dit, sont parvenus à de bons accords sur la coopération dans l'industrie automobile, notamment sur le transfert de technologies, l'amélioration de la production et de la fourniture de pièces, ainsi que dans le secteur ferroviaire. D'ici 2 mois, la plupart de ces mémorandums, accords et contrats entre l'Iran et la Chine seront mis en œuvre, a fait savoir le chef de l'Organisation iranienne pour le développement du commerce.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de cette émission, le débat de Presse TV français. En ce lundi, nous allons évoquer l'expulsion de la délégation israélienne lors du sommet d'ouverture de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba en Éthiopie le 18 février dernier. En effet, c'est plus qu'une expulsion, c'est un acte de haine de la part de l'Union africaine des pays africains de la présence israélienne et il semblerait que le comeback israélien est désormais annulé au sein de l'Union africaine, mais aussi au sein du continent africain, même si le lobby sioniste essaie de garder ses pions partout dans le monde, à savoir sur le continent africain. Nous allons évoquer ces questions avec nos deux invités, mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage préparé à ce sujet par mes collègues. On revient tout de suite après.
Les agents de sécurité ont expulsé la délégation du régime israélien venue de Tel Aviv pour participer au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, a fait savoir samedi 18 février l'agence de presse palestinienne Maan. La délégation israélienne est entrée secrètement dans la salle où se tenait samedi la cérémonie d'ouverture du sommet de l'Union africaine en utilisant de fausses identités. La délégation israélienne, qui prétendait être en possession d'invitation pour assister au sommet, a été expulsée de la salle puisque la commission de l'Union africaine avait au préalable annulé l'invitation de la délégation du régime sioniste. À l'issue de son rapport, l'agence de presse palestinienne Maan a souligné que l'expulsion de la délégation israélienne a prouvé que le régime n'a pas réussi à obtenir le statut d'observateur à l'Union africaine, bien au contraire, puisque le processus d'expulsion de la délégation israélienne a prouvé que le régime d'occupation était rejeté par l'Union africaine. Il est à noter que lors du 35e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en février 2022, l'UE a reporté la décision unilatérale prise en juin 2021 par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, d'accorder le statut d'observateur au régime israélien. Après la forte opposition des hauts responsables de l'Algérie, de l'Afrique du Sud et de l'Égypte en 2022, le débat au sommet annuel de l'Union africaine sur l'adhésion d'Israël à cette organisation en tant qu'observateur a été suspendu. À la place, il a été décidé de créer une comité composée de 7 pays pour étudier la question. Ce comité comprendrait l'Afrique du Sud et l'Algérie, mais aussi le Rwanda, la République démocratique du Congo, ainsi que le Cameroun et le Nigeria. L'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, la Libye et la Mauritanie se sont opposés en août dernier à l'accord du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, concernant l'adhésion du régime sioniste à cette union. En décembre 2022, la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération a considéré l'adhésion du régime d'Israël à l'Union africaine, UA, comme une offense au texte et à l'esprit de la charte de cette instance. Ce régime n'a donc aucune place dans l'UA. Naledi Pandor, la ministre des Relations internationales et de la coopération d'Afrique du Sud, a déclaré dans une interview accordée à Palestine TV, nous sommes témoins d'une solidarité la plus forte avec les combats du peuple palestinien en Afrique du Sud et nous sommes très engagés envers la cause palestinienne. Cette solidarité avec la nation palestinienne n'est pas seulement limitée à l'Afrique du Sud, mais elle concerne tout le continent africain.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Je vous présente nos deux invités. Il s'agit de Jacob Cohen, écrivain et analyste politique, également Luc Michel, géopoliticien. Je vous dis bonjour, messieurs, et merci d'avoir accepté notre invitation. Jacob Cohen, si vous voulez bien, on commence avec vous. J'aimerais avoir votre point de vue dans un premier temps, votre analyse générale de ce qui s'est passé au sein du sommet de l'UA, cette expulsion. On sait bien qu'Israël avait déposé sa candidature comme membre observateur, en fait, à l'Union africaine il y a près d'un an, une décision qui avait été, en fait, qui avait suscité l'opposition de plusieurs pays, dont l'Algérie, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Donc, comment interprétez-vous cette expulsion dans la conjoncture actuelle ?
Oui, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à M. Michel. En fait, c'est vraiment un recul terrible, une déception terrible pour Israël, parce que depuis plusieurs années, le régime sioniste a beaucoup tablé sur l'Afrique pour rétablir une dimension diplomatique, pour renverser le vote de l'ONU, de l'Assemblée générale. Donc, il a entrepris diverses démarches, soit économiques, soit sécuritaires. Et en fait, par exemple, sécuritaire en faisant pression sur certains pays, en divisant le Soudan, par exemple. Ça, c'était une entreprise sioniste. Exactement. Le Tchad, vous savez, c'est un ministre tchadien qui a donné une espèce, en catimini, une espèce d'autorisation à Israël d'assister en tant qu'observateur. Or, le Tchad est quasiment la chasse gardée d'Israël et de la France en Afrique. Je rappelle juste qu'il y a quelques semaines, le ministre des Affaires étrangères tchadien est arrivé à Tel Aviv et qu'il a reçu à l'aéroport le chef du Mossad, ce qu'il ne fait jamais. Donc ça montre à quel point Israël compte beaucoup sur l'influence sécuritaire ou même la menace sécuritaire qu'il peut exercer, et notamment aussi en Ouganda. Et donc finalement, tous ces investissements ont été réduits à néant parce que c'est un revers diplomatique majeur aujourd'hui.
Merci pour vos explications, Jacob Cohen. Je vous adresse la parole, Luc Michel. À votre avis, est-ce que, comme le dit Jacob Cohen, c'est une grosse déception ? Est-ce que c'est la défaite de tous les plans que Israël avait envisagé à mener en Afrique ?
Bonjour à vous, bonjour à Monsieur Cohen et bonjour à nos téléspectateurs. C'est une défaite majeure de l'offensive diplomatique israélienne. Les Israéliens essayent de s'ingérer en Afrique depuis les années 1960. Et sa particularité a des objectifs du gouvernement de Netanyahou. Mais ça va beaucoup plus loin qu'une défaite sur la question palestinienne. En effet, on voit que le monde nouveau multipolaire, eh bien, dans ce monde, Israël est un perdant. Et également, on voit que l'Afrique est en train de s'éloigner de l'emprise occidentale, comme vient de le montrer la question israélienne. C'est donc quelque chose à suivre. Et l'ensemble de ce qui se fait à l'Italie, cette réunion de l'Union africaine, montre que les Occidentaux sont en pleine de vitesse là-bas. C'est le résultat de l'offensive spéciale ukrainienne en Ukraine.
Et Luc Michel, nous voyons que la colonisation, le néocolonialisme est en train de tomber en fait dans son propre piège. En Afrique, on voit l'expulsion de Barkhane, par exemple, du Mali, du Burkina Faso, les nouvelles alliances qui se forment entre le Mali, le Burkina, la Guinée. Cette expulsion, est-ce qu'on pourrait dire que c'est en quelque sorte la fin de cette néocolonisation menée par l'axe US-Israël-OTAN ?
Écoutez, le colonialisme dans ses formes multiples, le sionisme. Israël, c'est une colonie occidentale sur la terre africaine. C'est donc évidemment tout le néocolonialisme français, anglais, britannique, belge, américain et israélien qui sont frappés. Les Africains, en particulier les Sud-Africains, se sont souvenus des rapports entretenus par le régime de l'apartheid avec les Israéliens, en particulier le Mossad. Et évidemment, ils n'ont pas accepté ce qui était une agression du peuple sud-africain. Hier, les Israéliens participaient à l'assaut de l'apartheid contre les Sud-Africains. C'est cela qu'on leur rappelle aujourd'hui.
Et Jacob Cohen, vous, à votre avis, est-ce qu'on pourrait dire que c'est la fin de cette néocolonisation, à savoir ce qui se passe aussi au Sahel, également au Maghreb, avec l'Algérie, il y a des tensions avec la France, le Maroc également, et là, d'une autre part, ce qui vient de se passer au sein de l'Union africaine, est-ce que c'est un signe de la fin, tout simplement, de la néocolonisation ?
Disons que c'est un signe d'une lente et profonde agonie du colonialisme. Mmh. C'est-à-dire que l'Amérique, avec la France, etc., ils ne vont pas lâcher le morceau aussi aisément. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, enfin je ne me souviens pas de la date exacte, mais il y a eu une réunion entre l'Union européenne et l'Afrique, oui, pour tenter de redresser la situation et soi-disant d'établir de nouveaux rapports, etc., de paraître abandonner le colonialisme, les relations néocoloniales, et de voir, devant le succès de la Chine et de la Russie, d'offrir quelque chose d'autre. Donc l'Occident ne va pas lâcher le morceau aussi facilement, Israël non plus ne va pas lâcher, donc il va y avoir, disons, une confrontation très très dure qui pourrait prendre aussi, et ce qui se passe par exemple en Ukraine, ça joue aussi, entre la France et Israël. Il y a aussi des dissensions sur la Syrie. Par exemple, la Russie a critiqué énergiquement les dernières attaques d'Israël sur la Syrie. Donc, il y a quand même tout un ensemble qui est en train de s'amalgamer. La division entre le camp des BRICS, disons, pour parler de manière générale, et l'Occident, cette confrontation est en train de s'étendre et de s'approfondir. Mais l'avantage est, et pour les BRICS, de manière générale, pour résumer, en Afrique, l'avantage est à la Russie, à la Chine, à la Turquie, etc. Tous des pays qui contestent le suprémacisme occidental.
Justement, on parle en fait de cette contestation des pays africains, de cette colonisation, de ce suprématisme américain, européen. Mais à votre avis, qu'est-ce qui a mené les pays africains à protester contre cette colonisation, à contester ces plans mis en œuvre par l'Europe, l'Occident, les États-Unis et Israël dans leur continent? Et qu'est-ce qui les a poussés à annoncer aussi clairement en fait leur opposition à cette présence?
Je crois que le Mali a constitué un tournant. Mmh. C'est-à-dire, par exemple, au Burkina Faso, oui, ils ont réussi à éliminer Sankara. Au Tchad, ils réussissent à éliminer les oppositions. Donc, en fait, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, enfin, tous ces pays qui tiennent grâce au franc CFA. Et donc, à mon avis, le premier acte de vraie résistance, enfin, et qui a eu du succès, c'est l'expulsion, ce qui aurait été quasiment il y a 2 ans presque inimaginable, oui, l'expulsion de la France, des forces françaises imité en cela déjà par le Niger, et une union des peuples qui s'unissent pour rejeter. Il y a un rejet terrible, mais cette fois, ce rejet s'exprime, se manifeste et prend des accents concrets, comme l'expulsion des troupes françaises.
Justement, ce que a commencé en fait le Mali, comme vous le dites, il y a 2 ans, peut-être c'était inimaginable que la force Barkhane ou la France soit expulsée aussi bien du Mali qu'au Burkina Faso, que ces deux pays choisissent leurs partenaires, à savoir la Russie, l'Algérie, les pays de l'Axe de l'Est. À votre avis, est-ce que ce qu'a commencé le Mali et le Burkina Faso, qui a en fait emboîté le pas au Mali en quelque sorte, pourrait se propager à travers toute l'Afrique, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, Centrafrique? La Centrafrique aussi a fait presque la même chose, Touadéra, avec la France.
À mon avis, c'est la tendance. Pardon, c'est pour M. Michel ou pour moi?
C'est pour vous, Jacob Cohen.
Pardon.
Oui.
La tendance est là. C'est-à-dire, vous savez, le rejet de l'Occident, mais il est profond en Afrique, il était profond depuis des décennies. Mm-hmm. Mais seulement, le problème, c'est que la France-Afrique, vous savez, on parlait de la France-Afrique depuis 20-30 ans. C'est quoi la France-Afrique? C'est-à-dire ces liens incestueux entre le pouvoir français et des dirigeants corrompus, pourris, africains, maintenus grâce aux services de renseignement, à l'armée, à l'économie français. Donc, on le savait tout ça. Cette fois-ci, on a brisé le carcan, on a réussi à se libérer. Enfin, c'est ça la différence. Et donc, à mon avis, ça ne peut aller que de l'avant. C'est une dynamique qui ne peut aller que de l'avant parce que tous les peuples africains ressentent d'une façon ou d'une autre la même chose. Et donc, moi, je suis sûr qu'en Côte d'Ivoire, Sénégal, le Tchad, ce sont des pays qui restent accrochés à la France. Pour les raisons que j'ai citées, ça veut dire l'économie, la corruption, etc., ou même la menace militaire. Mais on sait que ces peuples-là, si on leur donnait la possibilité de s'exprimer, ils renverraient la France chez elles, et peut-être qu'il y aura... Il ne faut pas oublier quand même que le Mali, c'est un coup d'État. Donc, on doit surveiller assez attentivement, comme le lait sur le feu, tous les mouvements des militaires, surtout les jeunes officiers, qui doivent voir avec envie leurs frères d'armes dans ces pays se libérer de la puissance coloniale. Et on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise de à peu près pareil.
Merci pour vos explications. Luc Michel, vous, à votre avis, cette opposition du peuple africain, cette expulsion de Barkhane du Mali et après du Burkina Faso, le désaccord entre le Mali, le Burkina, la France, l'expulsion des forces françaises, est-ce qu'il pourrait se propager à travers toute l'Afrique, dans les autres pays africains, comme la cité Jacob Cohen, la Côte d'Ivoire, le Tchad peut-être, qui reste toujours en quelque sorte attaché à cette action? Tu es sautant pour plusieurs raisons.
Bien entendu, les Occidentaux ont perdu la guerre en Afrique, en particulier la guerre médiatique. Vous savez qu'il y a en ce moment une grande campagne de presse internationale contre moi-même et mes réseaux pro-russes. Ce qu'on me reproche principalement, c'est d'avoir chassé les Français du Sahel. C'est ainsi qu'il l'exprime, évidemment. Quand je dis « nous », ce sont les réseaux pro-russes et les pan-africains alliés ensemble dans un mouvement de libération. Les Français et derrière eux, les Occidentaux ont fait une erreur fondamentale. Ils croient que leur désaveu en Afrique est le résultat de la propagande russe et de l'action que je mets. En fait, c'est une vague de fond qui s'en sert tous les peuples sud-africains, tous les peuples africains. C'est fini pour la France. Le temps du précarisme français, le temps du colonialisme français, s'est terminé en Afrique. La France a perdu et elle va entraîner dans sa chute des Occidentaux, les Américains, les Allemands, les Belges, les Espagnols, etc.
Et à votre avis, Luc Michel, comment sera l'ère post-colonisation en Afrique? Quelles seront les nouvelles relations, les nouvelles coalitions qui pourront se former au sein de ce continent?
C'est tout simplement les gouvernements africains veulent et vont choisir leurs alliés. Ce n'est pas à Bruxelles ou à Washington de décider que, par exemple, on n'a pas de relation avec Moscou, Pékin ou Téhéran. Ce n'est pas aux Occidentaux de décider pour les Africains. Ce qui est en œuvre, c'est un mouvement souverainiste. Les présidents sud-africains, comme Touadéra, en Centrafrique, ou bien que des Mbabane Sonko, en Guinée équatoriale, ils disent qu'il y a encore une place économique pour la France, mais que la France ne décidera plus pour les Africains. C'est cela qui est un changement de paradigme fondamental avec l'ère occidentale qui a prévalu entre 2010 et 2016.
Et Jacob Cohen, pour vous, comment se dessine l'ère post-colonisation en Afrique? Quelles seront les alliances, les coalitions à former?
Bon, certainement un alignement ou une coopération, appelons ça comme on veut, sur des pays, sur le grand pays qui résiste étonnamment, ça veut dire l'Occident qui n'en revient pas, la Russie qui résiste vaillamment aux sanctions économiques, à la pression militaire. Et c'est pour ça d'ailleurs, vous savez, les diplomates de l'Union européenne se disent catastrophés, entre guillemets bien sûr, j'utilise leur terme, catastrophés par l'appui des populations africaines à la Russie. Ils ne comprennent pas. Et donc, ils font semblant de ne pas comprendre. Parce qu'en fait, c'est pour eux le symbole de la libération. Ça veut dire que la Russie a ouvert la voie qu'on peut se libérer de la pression américaine, qu'on peut lui résister. Et quand on a un allié comme la Russie, la Chine, je crois que les pays africains peuvent se sentir assez forts pour réaliser cette libération.
Merci Jacob Cohen. Luc Michel, nous avons 2-3 minutes devant nous. Peut-être le mot de la fin, sinon on pourrait aussi poser une dernière question à Jacob Cohen. Une conclusion de ce qui s'est passé au sein de l'Union africaine, mais aussi de cette nouvelle ère et de ce nouveau chapitre qui s'ouvre en Afrique.
Oui, les Occidentaux menés par la France ont commis une erreur stratégique fondamentale. Ils croient à leur propre propagande. Ils sont persuadés que le sentiment anti-occidental et anti-propre relève d'opérations de désinformation, comme ils disent, de la régie, alors qu'en réalité, c'est une vague de fond. Vous savez que je suis souvent sur des plateaux africains. On assiste par la jeune génération une véritable haine de la France et de l'Occident. Ce n'est plus la détestation de la France-Afrique, comme il y a quelques années, mais une détestation même de tout ce qui est français et occidental. C'est cela que Macron ou Biden n'ont pas compris. Le temps de l'Occident en Afrique, il est passé.
Et Jacob Cohen, le mot de la fin peut-être à vous, on a près d'une minute devant nous.
Probablement en défaveur du régime sioniste, c'est la découverte, il y a quelques jours seulement, d'un organisme, d'une institution lié au service secret israélien, qui réussit à manipuler les opinions africaines pour des élections, etc. Et je crois que ça fait pas mal de bruit, et notamment sur le Kenya et tout. Et à mon avis, ça a dû aussi montrer la face sombre et complotiste du régime sioniste, et qui a dû jouer pas mal ces derniers jours en Afrique.
Exactement. Merci infiniment Jacob Cohen, analyste politique et écrivain. Luc Michel, géopoliticien, les deux étaient avec nous. Nous avons évoqué l'expulsion de la délégation israélienne qui s'était rendue au sommet d'ouverture de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Mais surtout, cette haine et ce sentiment anti-occupation, anti-français, anti-américain, anti-israélien des Africains et cette tendance à se détacher et à devenir indépendant en ce qui concerne dans les secteurs différents, économiques, politiques, etc. Voilà, c'était cette émission. Vous pourriez également revoir toutes nos émissions et informations sur notre site french.presstv.ir. Je vous dis au revoir et à très bientôt. We'll be right back.
L'histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui a resté inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. Chers auditeurs, bonjour. Au cours des émissions précédentes, nous avons fait connaissance avec les activités de plusieurs entreprises basées sur le savoir en Iran. Aujourd'hui, nous présenterons trois autres entreprises basées sur la connaissance, Chaboksan at Pishgam, Oforoshan Sahra et Garmochoub Porsion. Restez avec nous. L'entreprise Chaboksan at Pishgam est titulaire d'une licence d'exploitation industrielle et d'une licence pour les industries de haute technologie accordée par le ministère iranien de l'industrie, des mines et du commerce. Elle possède près de 20 ans d'expérience dans le secteur industriel et a rejoint des entreprises et des sociétés actives dans le domaine de l'équipement médical, de l'électronique, de la médecine, des chemins de fer, du pétrole, du gaz, etc. Pleinement informée des besoins des consommateurs de ses produits, l'entreprise s'efforce de les résoudre et a franchi un grand pas dans cette direction en parvenant à concevoir, tester et appliquer ses produits avec succès. De plus, la société Chaboksan At se range aux côtés de deux sociétés allemandes et japonaises dans le projet de fabrication et d'installation de groupes auxiliaires de puissance GAP des wagons livrés au chemin de fer. Les équipements fabriqués par la société Chaboksan at Pishgam comprennent des produits iraniens étrangers. Cette société opère dans le domaine de la production d'alimentation sans interruption ASI, d'onduleurs, de chargeurs industriels, de convertisseurs, alternatives continuables, de stabilisateurs, de panneaux industriels solaires et l'alimentation électrique AC-DC. La société effectue des réparations d'onduleurs triphasés et monophasés et DC, moteurs électriques DC et AC, les chargeurs de batterie, l'alimentation sans interruption de différentes capacités, la signature de contrat et la mise en œuvre du service et de la maintenance des alimentations sans interruption, des stabilisateurs, des chargeurs pour les batteries industrielles et des groupes électrogènes, batteries industrielles, la fourniture de batteries nickel-cadmium ou NICAD, la mise en œuvre de l'opération d'installation et d'exploitation d'alimentation sans interruption, du stabilisateur, de l'onduleur, des moteurs industriels et ferroviaires et du groupe électrogène et l'accouplement et l'assemblage de générateurs diesel-gaz sont des autres activités de la société Chaboksan at Pishgam. Cette entreprise a pu obtenir sa licence d'activité en 2018 en tant qu'entreprise du savoir. Oforoshan Sahar a été fondée en 2004 avec le projet de stabilisation des sables mouvants. du fait du changement de programme concernant les ressources naturelles du pays et de la non-exploitation du projet de la société en ce qui concerne la désertification, Oforo-Chansahar a continué son travail et commencé à produire des dispositifs de purification d'eau. Après les inondations au Pakistan, à la demande de la Compagnie rurale d'eau et d'assainissement de la province Khorasan-Razavi en 2012, cette société s'est lancée dans le traitement des inondations et au bout d'un an, elle a réussi à produire pour la première fois au monde une technologie de filtration par membrane pour le traitement des inondations. Le siège administratif de l'entreprise se trouve dans la province de Khorasan-Razavi. Aujourd'hui, l'entreprise travaille dans le domaine de la gestion des crues. Le dispositif requis pour le fonctionnement de ce système a été conçu et fabriqué par l'entreprise. Suite aux essais effectués dans les laboratoires de la Compagnie des eaux et des égouts de la province de Khorasan-Razavi et de celle de la province de Téhéran, des dispositifs ont été fabriqués et utilisés dans des situations d'inondation et de crise, ainsi que pour le traitement de l'eau. Actuellement, une vingtaine de ces appareils, aux capacités différentes, ont été envoyés et utilisés dans les provinces de Khorasan-Razavi, de Téhéran et de Fars. Un exemplaire a été envoyé au Bangladesh pour le croissant rouge de Khorasan-Razavi. De plus, ces appareils équipés d'une filtration sur membrane ont fait l'objet de différents tests en 2014 dans la province du Golestan lors de la crue de la rivière Khambobin en présence d'experts spécialistes de cette province. Ce dispositif a permis de réduire la turbidité de 32 800 NTU à 0,73 NTU du jamais vu dans le monde. Précisons que NTU est l'abréviation de l'unité standard de mesure de la turbidité. De plus, le dispositif construit pour l'eau et les égouts à l'est de Téhéran, situé à Rudehend, est capable de purifier 1 million de litres d'eau par jour. Cette société est capable de produire des appareils de différentes capacités allant d'un litre par seconde à 100 litres par seconde. De plus, cette entreprise a pu obtenir sa licence d'activité en 2018 en tant qu'entreprise de production basée sur le savoir. La société Garmochu Porcian est une autre entreprise du savoir qui est entrée dans l'industrie de la province de Yazd en 2014 grâce au travail acharné de plusieurs experts iraniens et de jeunes esprits. En 2014, l'entreprise a réussi à introduire le premier échantillon de ses produits dans l'industrie du bois traité thermiquement et peu de temps après sa création, elle a pu produire une variété de produits thermiques d'une capacité nominale de 20 000 mètres carrés et aujourd'hui, c'est l'un des entreprises les plus connues de cette industrie. L'utilisation des connaissances et de l'expertise locale, la reconception et la construction de certaines machines industrielles et leur intégration avec certains équipements étrangers ont permis de fabriquer des produits de même qualité que les échantillons importés. Dans certains cas, ils ont même de meilleure qualité que les produits étrangers à bien des égards. La création d'emplois pour un nombre important de gens, un service clientèle après-vente disponible 24 heures sur 24, sont autant d'avantages qui ne sont pas proposés pour l'échantillon étranger. L'amélioration continue de la qualité, l'accès aux marchés mondiaux et la création d'emplois font partie des perspectives à court terme de cette entreprise industrielle.